Chapitre 7. La nature prise sur le fait. Il nous faut maintenant faire un retour sur nos pas pour savoir ce qu'il est advenu de quelques-unes de nos connaissances que nous avons laissées dans l'Hampshire. De ces honnêtes personnes dont les espérances furent si cruellement déçues en ce qui concernait l'héritage de leur vieille parente, Miss Crawley. Bute Crawley avait compté sur 30 000 livres sterling pour sa part dans les biens de sa sœur. Quel ne fut pas son désappointement lorsque, au lieu de cette somme, il dut se contenter de 5 000 livres qui, après avoir servi à payer ses dettes et celles de son fils à l'université, ne laissèrent pas grand-chose à partager entre ses 4 filles. Mrs. Bute ne se douta jamais, ou du moins ne voulut jamais convenir que son humeur acariâtre et despotique avait été pour beaucoup dans la fâcheuse issue de cette affaire. Elle prenait le ciel à témoin qu'elle n'avait négligé rien de ce qu'il était humainement possible de faire pour s'assurer cet héritage. Était-ce sa faute si elle manquait de cette souplesse et de cette hypocrisie dont son neveu Pitt Crawley avait une si grande habitude? Du reste, cette bonne créature lui souhaitait toutes sortes de prospérités possibles dans la jouissance de ce bien mal acquis. « Cet argent, du moins, ne sortira pas de la famille, » disait cette charitable dame à son mari. « Vous pouvez bien être assuré que Pitt ne le dépensera jamais. L'Angleterre n'a jamais rien produit de plus ladre et de plus avare. C'est toujours du vice, bien que sous une autre forme, que chez cet avaleur de tout bien, cet abominable Rodon. » Les premiers mouvements de sa mauvaise humeur, une fois passés, Mrs. Bute s'occupa de tirer le meilleur parti possible de la fortune délabrée à la tête de laquelle elle se trouvait. Elle adopta un large système de réformes et d'économies, apprit à ses filles à supporter leur pauvreté avec une âme patiente et résignée, inventa 1000 ingénieuses supercheries pour dissimuler son état de gêne, et quelquefois, pour s'y soustraire, elle promenait ses filles dans tous les bals et réunions publiques du voisinage avec un courage digne d'un meilleur sort. Jamais l'hospitalité n'avait été si brillante au presbytère que depuis l'ouverture de la succession de Miss Crawley. Au train de vie qu'on menait dans cette maison, personne n'aurait pu se douter de la déception que la famille avait eue à subir dans ses espérances. On ne supposait pas, en voyant Mrs. Bute de toutes les fêtes des alentours, que chez elle, elle était dans la gêne et presque réduite à mourir de faim. Jamais ces demoiselles n'avaient étalé un tel luxe dans leur toilette. Elles ne manquaient pas une des réunions de Winchester et de Southampton. Elles avaient des billets pour tous les bals donnés à l'occasion des courses de chevaux ou des régates de chaos. Leur voiture, traînée par un attelage qui quittait la calèche pour la charrue, était sans cesse à courir la grande route. Comment ne pas croire, en présence de pareils faits, que cette tante, dont on ne prononçait le nom en public qu'avec la plus tendre et la plus respectueuse gratitude, n'eût légué aux 4 sœurs une fortune colossale. C'est là une manière de mentir fort commune en ce monde de vanité, et ceux qui la pratiquent, loin d'en avoir la conscience plus chargée, se regardent de contraire comme ayant fait une action méritoire et digne d'éloge. Mrs. Bute, du moins, le pensait ainsi. À ses yeux, c'était le moyen le plus sûr pour arriver à avoir un jour sa place dans le calendrier. N'était-il pas en effet fort édifiant pour les étrangers de voir le bonheur qui régnait dans cette heureuse famille? Ses filles étaient des jeunes personnes si naturelles, si aimantes, si bien élevées. Martha peignait les fleurs dans la perfection, et l'on voyait de ses tableaux dans toutes les ventes de bienfaisance du comté. Emma était le rossignol de la famille, et ses vers, imprimés dans la vedette de l'Hampshire, faisaient la gloire de la colonne réservée aux poètes. Fanny et Mathilde chantaient des duos que leur mère accompagnait au piano, tandis que les 2 autres sœurs, se tenant enlacées par la taille, les écoutaient avec le ravissement d'une vive et pieuse tendresse. Mais personne n'assistait aux répétitions particulières de ces duos, alors que leur mère forçait impitoyablement ses filles à tambouriner un certain nombre d'heures par jour sur le piano. Bref, Mrs. Bute tâchait de faire bonne contenance en présence de sa mauvaise fortune, et par ses efforts héroïques, réussissait tout au moins à sauver les apparences. Sous ce rapport, elle se conduisait du moins en tout point en bonne et excellente mère qui veut assurer l'établissement de ses filles. Et certes, il n'y avait là aucun reproche à lui adresser. Elle recevait chez elle les canotiers de Southampton, les clercs de la cathédrale de Winchester et enfin les officiers du régiment. Elle s'efforçait aussi d'attirer dans ses filets les jeunes avocats aux assises, encourageait fortement Jim à lui amener ses compagnons de chasse. Que ne ferait pas une mère pour le bien des chers objets de sa tendresse? Entre une femme de si haute vertu et le baronnet réprouvé, que pouvait-il y avoir encore de commun? En conséquence, il y eut rupture complète entre les deux frères. Il est vrai de dire que tout le comté était brouillé avec le baronnet, dont la vie n'était plus qu'une longue suite de scandales. L'aversion de Sir Pitt pour la compagnie des honnêtes gens n'avait fait que croître avec les années. La grille du parc ne s'ouvrit plus à la voiture d'aucun homme digne d'estime et de considération après la visite de noces que M. Pitt et Lady Jane vinrent faire au baronnet. Cette visite resta dans leur esprit comme un triste et douloureux souvenir auquel ils ne pensaient jamais qu'avec un secret sentiment d'horreur. Pitt pria sa femme de ne plus en parler devant lui, et lorsqu'il lui exprima cette volonté, sa voix et sa figure avaient une expression extraordinaire. Tous les renseignements qu'on a pu recueillir à ce sujet viennent de Mrs. Bute, qui, par des moyens à elle, parvint à se mettre au courant de tous les détails de la réception faite par Sir Pitt à son fils et à sa bru. À peine la voiture des jeunes époux, dans tout l'éclat de sa fraîcheur, eut-elle franchi l'entrée de la grande avenue, que M. Pitt s'aperçut, avec un sentiment de contrariété et presque de mauvaise humeur, que d'immenses trouées avaient été faites dans les deux rangées d'arbres qui bordaient l'allée, et que sans respect pour le droit de propriété que M. Pitt avait sur eux, le vieux baronnet les taillait et les coupait d'après les inspirations de son caprice. Tout dans le parc offrait à l'œil l'aspect de la ruine et de la désolation. Les allées étaient mal entretenues et semées d'ornières profondes où la voiture, en s'enfonçant, faisait jaillir la boue tout autour d'elle. Les abords de la terrasse et les gradins du perron étaient couverts d'une mousse noirâtre. Les corbeilles de fleurs, garnies autrefois des plantes les plus rares, étaient maintenant envahies par les mauvaises herbes. Les volets, livrés au souffle des vents, en suivaient la direction sur toute la façade de la maison. Ce ne fut qu'après plusieurs coups de sonnette désespérés que la porte du château s'ouvrit enfin. Les visiteurs purent apercevoir une espèce de dame en ruban gravissant l'escalier de chêne noir au moment où Horrocks introduisait l'héritier de Croll et la reine et sa jeune épouse dans la demeure de ses ancêtres. Il les conduisit au cabinet de Sir Pitt, comme on appelait cette pièce. Lady Jane et Sir Pitt, à chaque pas qu'ils faisaient, se sentaient presque suffoqués par une forte odeur de tabac. Sous forme d'excuse, maître Horrocks glissa en passant que Sir Pitt était repris de ses douleurs et souffrait beaucoup de ses reins. Le susdit cabinet avait vue sur l'entrée du parc. Sir Pitt, de l'une des fenêtres qu'il venait d'ouvrir, avait engagé un bruyant dialogue avec le postillon et le domestique de son fils, qui faisait mine de décharger les bagages. « Ne touchez pas à ces paquets !» leur criait-il, en leur faisant signe du bout de la pipe qu'il tenait à la main. « C'est une simple visite, ne le voyez-vous pas, imbécile que vous êtes ? Voilà, voilà un cheval qui a la jambe bien abîmée. Conduisez-le à l'auberge de la tête couronnée pour qu'on la lui frotte un peu. Eh bien, Pitt, comment va cette santé, mon cher ? Hé hé, vous venez voir si la vieille carcasse de votre père est encore debout. À la bonne heure, ma belle enfant, vous avez une mine un peu plus gentille que les joues parcheminées de votre respectable mère. Allons, venez embrasser le vieux Pitt comme une petite fille bien sage. Cette caresse qui sentait le tabac, faite avec une bouche hérissée d'une barbe de 8 jours, ne fut pas des plus agréables pour la jeune femme qui ne savait où elle en était. Elle se souvint heureusement fort à propos que son frère Southdown portait des moustaches et fumait des cigares, ce qui l'aida à supporter plus facilement les embrassades du baronnet. « Allons, je vois que Pitt a pris du ventre, » dit celui-ci après avoir donné à Lady Jane cette marque de tendresse dont elle se fut bien passée. « Eh bien, ma chère, votre mari vous lit sans doute ses sempiternels sermons. Le 100e psaume de l'hymne du soir, n'est-ce pas cela, maître Pitt ?»« Allez donc, Horrocks, vite un verre de malvoisie et un gâteau pour Lady Jane. Qu'avez-vous à rester là tout ébahi, comme un cochon dressé pour le roussir ? Je ne vous engage pas à passer quelques jours avec moi. Vous vous ennuieriez trop et vous ne m'amuseriez pas beaucoup. Un vieux racorni comme moi a des habitudes auxquelles il tient. Et moi, je passe ma vie entre ma pipe et mon tric-trac. Je sais aussi jouer au tric-trac, dit Lady Jane avec un sourire. J'y faisais la partie de mon père et celle de Miss Crawley. Lady Jane pourrait jouer avec vous à ce jeu qui semble avoir toutes vos prédilections, repartit Pitt d'un ton toujours solennel. N'importe, ce n'est pas là une raison pour que vous vous installiez ici. Non, non. Allez à Madbury, où Mrs. Rianser sera enchantée de vous recevoir, ou bien à la cure, où Bute vous offrira à dîner. Il sera ravi de vous voir, j'en suis sûr. Il vous a une si grande obligation de lui avoir soufflé l'héritage de la tante. Ah ah, vous aurez là de quoi boucher les trous du château quand je ne serai plus là. Je me suis aperçu, monsieur, dit Pitt avec son arrogance habituelle, que vos gens ont fait un assez gros appétit des arbres du parc. Oui, le temps est superbe et bien agréable pour la saison, répondit Sir Pitt, devenu sourd comme par enchantement. Je me fais bien vieux, Pitt, si vous saviez. Le ciel vous accorde encore de longues années, mais vous n'êtes pas loin vous-même de la cinquantaine. Du reste, il ne les porte pas mal, n'est-ce pas, ma gentille Lady Jane? C'est pieux, c'est sobre, enfin ça mène une vie exemplaire. Regardez-moi, je ne suis pas bien loin des 80. Il se mit à rire, prit une prise de tabac, fit des agaceries à Lady Jane et lui serra la main. Pitt chercha vainement à ramener la conversation sur la coupe des arbres. Le baronnet devenait sourd au même instant. « Hélas, je me fais bien vieux, et mon lumbago m'a bien fait souffrir cette année. Je n'ai plus longtemps à passer ici-bas. Je suis bien aise que vous soyez venus me voir tous les deux. Votre figure me plaît, Lady Jane. On ne trouve point dans vos traits les airs dédaigneux et insolents des Binky. Je vais vous donner, pour quand vous irez à la cour. » Il se dirigea en même temps, non sans avoir d'abord prêté l'oreille, vers un chiffonnier dont il tira un écrin renfermant des bijoux de quelque valeur. « Prenez, ma chère, dit-il à Lady Jane, cela a appartenu à ma mère et n'a été porté que par ma première femme. La fille du quincaillier n'y a jamais touché, aussi vrai que je vous le dis, mais prenez et cachez vite. » Au moment où il mettait l'écrin dans la main de sa bru et poussait le tiroir du chiffonnier, Horrocks entrait portant un plateau de rafraîchissement. « Qu'avez-vous donné à la femme de Pitt ?» dit la femme au ruban, lorsque Pitt et Lady Jane eurent pris congé du vieillard. Cette femme n'était autre que Miss Horrocks, la fille du sommelier, objet de scandale pour tout le comté. En un mot, la châtelaine de nouvelle création établie en souveraine à Crawley-la-Reine. La faveur dont jouissait au château la dame au ruban avait excité le mécontentement et le blâme de la famille et de tout le comté. La dame au ruban avait un compte ouvert à la succursale de la caisse d'épargne située à Madbury. La dame au ruban allait en voiture à l'église, se réservant pour elle seule l'usage des chevaux qui avaient fait pendant longtemps le service des domestiques du château. Un simple mouvement de son caprice suffisait pour décider du renvoi de ceux-ci. Le jardinier écossais, resté en possession du potager, se montrait très fier de ses espaliers et de ses serres chaudes, et se faisait un assez joli revenu du produit de la vente des fruits et des légumes au marché de Southampton. Mais un beau matin, ayant trouvé la dame au ruban occupée à dévorer ses pêches sur ses espaliers, il reçut une paire de soufflets en réponse à quelques observations qu'il présentait au sujet de ses atteintes portées à sa propriété. Lui, sa femme, ses enfants, tous les braves serviteurs de Crawley-la-Reine n'eurent d'autre parti à prendre que de faire leur paquet et d'abandonner au pillage ces jardins jusqu'alors si bien entretenus. Les mauvaises herbes commencèrent à croître tout à leur aise. Le parterre de la pauvre Lady Crawley fut dévoré par les ronces et les épines. Il ne restait dans la vaste cuisine du château que deux ou trois domestiques, tout grelottant de froid. L'écurie et l'office, transformés en une espèce de solitude et ouverts à tous les vents, tombèrent en ruine. Sir Pitt passait ses nuits à se divertir avec Horrocks, son sommelier, et pendant le jour, il se querellait avec ses agents et, dans ses lettres, accablait d'injures ses fermiers ou s'occupait lui-même de sa correspondance. Les gens de loi, les baillis qui avaient à traiter avec lui, ne trouvaient accès dans le sanctuaire que par la faveur spéciale de la dame au ruban qui leur servait d'introductrice auprès du baronnet. C'est ainsi que mille soucis venaient assiéger Sir Pitt, que les embarras les plus compliqués lui surgissaient de toutes parts. M. Pitt, l'homme d'ordre et d'étiquette par excellence, ne pouvait voir qu'avec un sentiment d'horreur ce renversement de toutes les convenances. La crainte d'apprendre que l'effroyable dame au ruban était devenue sa belle-mère ne lui laissait plus un jour de tranquillité. Depuis la visite que nous venons de rapporter, la comtesse de Southdown fit plusieurs tentatives pour introduire dans le château les traités les plus émouvants et les plus capables de faire blanchir de terreur la tête de ce vieux réprouvé. Mrs. Bute, au milieu de la nuit, allait à sa croisée pour voir si le ciel ne s'illuminait pas des rouges clartés de l'incendie dans la direction du château de Crawley. Sir G. Wapshot et Sir H. Faddleston, les vieux amis du baronnet, ne voulaient plus siéger avec lui aux assises et se détournaient de lui dans les rues de Southampton quand ce vieux suppôt de la débauche les rencontrait et leur tendait la main. Mais rien n'y faisait. Il rengainait sa poignée de main et s'en allait en riant aux éclats. Les brochures de Lady Southdown avaient aussi le don d'exciter au plus haut point son hilarité. Il se moquait de ses fils, du monde, enfin de la dame au ruban, quand par hasard elle se fâchait, ce qui arrivait encore assez souvent. Miss Horrocks, une fois installée comme gouvernante dans le manoir de Crawley-la-Reine, traita ses anciens compagnons de service avec un despotisme intolérable. Tous les serviteurs l'appelaient « ma'am » par abréviation de « madame ». Une petite fille qu'elle-même avait prise à son service s'obstinait seule à l'appeler « milady », ce qui n'avait aucunement l'air de formaliser la gouvernante. « Des ladies, eh mon Dieu, il y en a dans tous les numéros, Esther !» disait Miss Horrocks en réponse à cette flatterie de sa subalterne. Elle exerçait ainsi un pouvoir illimité en toute occasion et sur toute personne, et renchérissait peut-être encore à l'égard de son père, lui disant de ne point se laisser aller à tant de familiarité dans ses rapports avec la dame d'un baronnet. Elle étudiait souvent dans le jour son rôle de châtelaine, à sa grande satisfaction personnelle et au grand divertissement de Sir Pitt, qui se tenait les côtes en voyant les airs et les grâces qu'elle se donnait. Et en effet, rien n'était plus risible et plus voisin de la caricature que ces mignardises aristocratiques. Le baronnet, pour qui ses prétentions à l'élégance n'étaient qu'une comédie des plus bouffonnes, lui faisait mettre les habits de cour de la première Lady Crawley et lui affirmait, de manière à ne laisser aucun doute à Miss Horrocks à cet égard, que ce costume lui allait à ravir, et qu'il n'y avait plus qu'à aller la présenter à la cour dans sa voiture à quatre chevaux. Miss Horrocks s'était emparée de la défroque des deux défuntes, et coupait et taillait dans ce monceau de chiffon ce qu'elle croyait pouvoir convenir à sa figure. Elle aurait bien voulu prendre aussi possession des joyaux et des bijoux des dames qui l'avaient précédée. Mais le vieux baronnet les avait renfermés dans un tiroir dont elle n'avait pu obtenir la clé, en dépit de toutes ses caresses et de toutes ses flatteries. Quelque temps après le départ de cette honnête personne, il trouva au château un cahier de brouillon sur lequel elle s'exerçait dans l'art calligraphique en général et dans le tracé de son nom en particulier. Sur chaque page, on pouvait lire « Lady Crawley »,« Lady Betsy Horrocks »,« Lady Elizabeth Crawley », etc., etc. Bien que les dignes habitants du presbytère ne vinssent jamais à Crawley-la-Reine et semblassent fuir le vieux païen qui en rendait les murs témoins de ses forfaits, ils savaient néanmoins les moindres détails de ce qui s'y passait, et chaque jour s'attendait à quelque catastrophe dont Miss Horrocks n'avait pas un moins vif pressentiment. Mais, hélas, le diable s'en mêla et lui enleva la récompense que méritait un dévouement si désintéressé, une vertu si immaculée. Un jour, le baronnet surprit sa seigneurie, comme il l'appelait par dérision, devant une vieille épinette enrouée, restée fermée depuis le temps où Beck et Sharp y avaient joué ses quadrilles. La dame au ruban tapait les touches avec une gravité imperturbable et hurlait de toute la force de ses poumons, en croyant imiter les chants qu'elle avait jadis entendus. La petite fille de cuisine qu'elle avait fait entrer dans la maison se tenait auprès de sa maîtresse, ayant l'air de prendre un très grand plaisir à cette opération musicale, et faisait aller et venir sa tête en poussant de temps à autre des exclamations admiratives. « Mon Dieu, ma'am, que c'est beau, que c'est bien !» Un flatteur de grande maison n'aurait pas mieux fait son métier. Ce petit tableau excita, comme d'habitude, l'hilarité du baronnet. Le soir, il en parla plus de 20 fois dans son tête-à-tête avec son majordome. Miss Horrocks, très loin d'être charmée de ce récit, tambourinait sur la table en guise d'épinette. Quant à Sir Pitt, il hurlait à faire crouler les murs pour donner une idée de la puissance vocale de Miss Horrocks. Et comme une si belle voix ne devait point rester inculte, il promettait à la modeste demoiselle des maîtres de chant, chose qui paraissait toute naturelle à celle-ci. Sir Pitt se montra du reste ce soir-là fort gaillard et fort dispos. Il fit avec son sommelier une énorme consommation de grog et ne se retira dans sa chambre qu'à une heure fort avancée. Une demi-heure après, toute la maison était en révolution. On voyait les lumières passer rapidement devant les fenêtres et illuminer successivement les vastes salles du château désert, dont le seigneur n'occupait d'ordinaire que deux ou trois pièces au plus. Pendant cette agitation, qu'il était facile de constater du dehors, un homme à cheval galopait sur la route de Madbury pour aller y chercher le docteur. Et pendant ce temps, ce qui prouve avec quel soin l'excellente Mrs. Bute Crawley se tenait toujours au courant de ce qui se passait au château, on pouvait voir, accourant du presbytère au château, le père, la mère et le fils. Ils traversèrent la cour d'honneur, la salle à manger aux antiques boiseries, où se trouvaient sur une table trois grands verres et une bouteille naguère encore pleine de rhum, et qui venait de servir à la dernière orgie de Sir Pitt. Franchissant rapidement cette enfilade de pièces, ils se dirigèrent vers le cabinet dont nous avons parlé, où ils trouvèrent Miss Horrocks, qui, d'un air tout inquiet, cherchait au milieu d'un gros trousseau de clés celle qui allait aux serrures des bureaux et des commodes. Le trousseau tomba à terre, et la demoiselle au ruban poussa un cri de terreur quand elle vit se dresser devant elle la petite Mrs. Bute, dont les yeux lançaient des éclairs de dessous les ténèbres de sa capote. « Eh bien, James, vous êtes témoin, Monsieur Crawley !» s'écriait Mrs. Bute en montrant du doigt la coupable dont l'air effaré témoignait assez des mauvaises intentions. « Il me les a donnés, il me les a donnés » criait-elle de toutes ses forces. « Il vous les a donnés, misérable créature !» reprenait Mrs. Bute sur un ton non moins élevé. « Vous pouvez attester, messieurs, que nous avons trouvé cette femme, capable de toute espèce de mal, en train de crocheter les meubles de votre frère. Je vous l'avais toujours dit qu'elle devait, tôt ou tard, finir par la potence. » Betsy Horrocks, en proie à la plus vive terreur, s'affaissa sur elle-même et se mit à sangloter. Mais ceux qui savent ce que vaut la charité de certaines femmes n'ignorent point qu'elles ne sont point pressées de pardonner et que l'humiliation de leur ennemi est un véritable triomphe pour elles. « Sonnez, James !» dit Mrs. Bute, « sonnez jusqu'à ce que l'on vienne. » Les trois ou quatre domestiques qui restaient dans cette maison déserte accoururent au bruit redoublé de la sonnette. « Mettez cette misérable au cachot !» leur dit l'énergique petite femme. « Nous l'avons surprise en flagrant délit de vol. Vite, Monsieur Crawley, dressez le procès-verbal. Vous, Beddoes, dès demain, vous la conduirez à la prison de Southampton. » « Ma chère, dit le recteur, transformé en magistrat, je vous ferai remarquer que... »« Est-ce qu'il n'y a point ici de menottes ?» continua Mrs. Bute, frappant du pied avec ses sabots. « Autrefois, il y avait ici des menottes. Où est l'abominable père de cette plus abominable fille ?»« Il me les a données !» criait toujours la pauvre Betsy. « N'est-ce pas, Esther ?»« Oui, Saint-Pitt, n'est-ce pas ? Il me les a données. Il me les a données, vous savez, le lendemain de la foire de Madbury. » « Reprenez-les si vous croyez qu'elles ne soient pas à moi. » Cette malheureuse tira alors de sa poche une énorme paire de boucles de souliers. C'était une imitation en faux, et la chose qui avait le plus excité sa convoitise, parmi toutes les autres qu'elle avait trouvées dans le tiroir du secrétaire. « Juste ciel, Betsy, d'où avez-vous tiré tous les méchants contes que vous inventez là ? » répondait Esther, sa créature. « Pourquoi vouloir en imposer à Madame Crawley, à cette bonne et excellente Madame Crawley et à notre révérend ministre ?» Elle accompagna ces paroles d'un salut. « Ah, vous pouvez fouiller dans mes poches, ma'am, vous n'y trouverez que mes clés. » « C'est que, voyez-vous, je suis une honnête fille au moins, quoique née de parents pauvres. Ils vivent de leur travail, savez-vous bien. Si vous trouvez seulement sur moi un pauvre petit morceau de dentelle ou de soie, je veux bien ne jamais remettre les pieds à l'église. » « Vos clés, pécheresse endurcie, créature réprouvée !» hurlait la vertueuse petite dame, toujours abritée sous sa capote. « Voici une chandelle, ma'am, Voulez-vous venir avec moi dans ma chambre et visiter toutes les commodes dans celle de la gouvernante? C'est là qu'il s'en trouve un tas d'affaires, reprit de plus belle la petite Esther, continuant toujours ses saluts. Silence, je vous prie. Je connais parfaitement la chambre qu'occupe cette créature. Mrs. Brown, ayez l'obligeance de m'accompagner. Vous, Beddoes, vous m'en répondez, et vous, Monsieur Crowley, allez vite là-haut voir si on n'assassine pas votre malheureux frère. » Après ces dernières paroles, Mrs. Bute saisit le flambeau et, escortée de Mrs. Brown, se dirigea vers la susdite chambre, qu'elle connaissait en effet fort bien. Quant à Bute, il monta l'escalier et trouva le docteur de Madbury occupé avec Horrocks au comble de l'émoi, autour du seigneur du château, étendu sans mouvement dans son fauteuil et cherchant à le rappeler à la vie à l'aide d'une saignée. Le matin, de bonne heure, par les soins de la femme du ministre, une estafette fut dépêchée à M. Pitt Crowley. Cette excellente dame s'était attribué la haute direction de toutes les mesures à prendre dans les circonstances actuelles et avait veillé le vieux baronnet pendant toute la nuit. On était parvenu, avec beaucoup de difficulté, à lui rendre comme un souffle de vie. Il ne pouvait plus parler, mais du moins il semblait reconnaître son monde. Mrs. Bute restait à son chevet avec un courage vraiment héroïque. On eût dit qu'elle était forte à pouvoir se passer de sommeil. Ses yeux noirs restaient tout grands ouverts, tandis que le docteur ronflait du meilleur cœur dans son fauteuil. Horrocks avait fait des efforts désespérés pour maintenir contre elle son autorité, mais Mrs. Bute le traita d'ivrogne et de débauché, lui enjoignit de déguerpir au plus vite de la maison et le menaça, s'il avait le malheur de s'y montrer de nouveau, de le faire transporter à Botany Bay avec son abominable fille. Intimidé par la résolution du ton et des gestes de Mrs. Bute, il se glissa jusqu'à la pièce boisée où M. James, après s'être assuré qu'il n'y avait plus de liquide dans la bouteille placée sur la table, ordonna à M. Horrocks d'en apporter une autre avec des verres propres. Le ministre et son fils prirent à leur place pour fêter la nouvelle venue, après quoi ils enjoignirent à Horrocks de leur remettre les clés et de gagner la porte par le plus court chemin. En présence d'un ordre aussi catégorique, Horrocks pensa que ce qu'il avait de mieux à faire était de remettre les clés. Puis, avec sa fille, il délogea, sans tambour ni trompette, profitant des ténèbres de la nuit. Telle fut la fin de la puissance et de la grandeur de ces deux honnêtes personnes dans le château de Crowley-la-Reine. Chapitre 8, dans lequel Becky est reconnue par la famille. L'héritier des Crowley arriva au château peu après cette première alerte, et l'on peut dire que dès lors, il commença à y régner en maître. Le vieux baronnet survécut quelques mois encore à cette attaque, mais sans recouvrer assez complètement l'usage de la pensée et de la parole, pour que l'autorité ne fût pas dès lors dévolue tout entière à son fils aîné. Sir Pitt, depuis de longues années, empruntait sans cesse sur hypothèque, c'était autour de lui comme une armée de gens d'affaires. Chaque jour, il avait avec ses fermiers des disputes qui ne manquaient jamais d'aboutir à des procès. Et quant à ces derniers, il les comptait par centaines. Procès avec la compagnie des mines, procès avec la compagnie des docks, procès avec tous ceux qui avaient avec lui le plus petit rapport. Sortir de tous ces embarras, voir clair dans ce chaos, était une tâche vraiment digne de l'esprit d'ordre et de persévérance de l'ex-attaché à la cour de Poupernicle. Il se mit donc à la besogne avec la plus louable énergie. Toute sa famille vint s'établir à Crowley-la-Reine, y compris même Lady Southdown. Dans son ardeur de prosélytisme, elle comptait convertir tous les habitants de la cour à la barbe du ministre, et élever à côté de lui une chaire à ses prédicateurs dissidents, en dépit des fureurs de Mrs. Bute. Sir Pitt n'ayant point disposé de la survivance à la cour de Crowley-la-Reine, Lady Southdown comptait bien, le ministre actuel une fois mort, en prendre la haute direction et faire remplir la place vacante par un de ses jeunes protégés. Notre diplomate la laissait faire à son aise tous ses petits arrangements et restait aussi impénétrable que la statue du silence. Les terribles menaces de Mrs. Bute contre Miss Betsy Horrocks en restèrent là. Elle fut, ainsi que ses rubans, dispensée d'aller faire visite à la prison de Southampton. Elle quitta le château pour un cabaret du village, aux armes des Crowley, qu'Horrocks avait précédemment pris à loyer du baronnet. L'ex-sommelier ayant ensuite, avec ses économies, acheté quelques immeubles, finit par avoir une voix aux élections. Celle du ministre et de quatre voisins, se joignant à celle-là, formaient le collège électoral, envoyant au Parlement les deux membres pour représenter Crolles-la-Reine. Il s'établit bientôt un échange de politesse entre les dames du presbytère et celles du château. Il n'est ici question que de Lady Jane, car pour ce qui concerne Lady Southdown, ses entrevues avec Mrs. Bute dégénéraient toujours en vraie bataille, si bien que ces deux dames finirent par éviter mutuellement de se rencontrer. Sa seigneurie s'enfermait dans sa chambre quand la cure venait rendre visite au château. M. Pitt n'était peut-être pas trop fâché, au fond, de se sentir de temps à autre soulagé de la présence de sa belle-mère. La famille des Binkey était sans aucun doute à ses yeux la plus recommandable de l'Angleterre par sa noblesse et son bon sens. Mais les airs d'autorité qu'affectait Lady Southdown finissaient par le fatiguer et lui peser. Il était sans doute très flatteur pour sa personne de passer encore pour un jeune homme à 46 ans, mais il n'en était pas moins mortifiant de ne pas se sentir à cet âge plus libre qu'un enfant. Quant à Lady Jane, elle n'aurait point fait résistance à sa mère, et du reste l'amour de ses enfants absorbait toutes ses facultés. Fort heureusement pour elle, les nombreuses et importantes affaires de Lady Southdown, ses conférences avec le ministre, sa correspondance avec les missionnaires d'Afrique, d'Asie et d'Australie, etc., occupaient à un tel point la vénérable comtesse qu'il ne lui restait point de temps pour songer à l'éducation de la petite Mathilde et de son petit-fils, maître Pitt Crolles. Ce dernier était d'une nature maladive, et s'il était encore en vie, Lady Southdown l'attribuait aux doses redoublées de calomel qu'elle lui faisait prendre. Quant au vieux Sir Pitt, il passait ses derniers jours de lutte avec la vie dans les appartements où était morte la dernière Lady Crolles. Il était soigné par la petite Esther, remplie pour lui des soins les plus touchants et les plus infatigables. Qu'y a-t-il à comparer à la tendre sollicitude d'une garde malade dont on paye les services? Qui saurait mieux qu'elle battre les coussins, préparer les soupes et les tisanes? Ces femmes passent les nuits à veiller à votre chevet, elles endurent patiemment vos plaintes et vos bourrades. Le soleil peut se lever sur la campagne sans qu'elles aient jamais envie de sortir. Elles dorment sur le canapé, elles prennent leur repas sur le coin d'une table. Elles passent de longues soirées sans autre occupation que d'entretenir le feu devant lequel on entend chanter la tisane du malade. Elles lisent religieusement le journal de la première à la dernière ligne. Et puis, elles auront à essuyer vos gronderies et vos querelles si des amis viennent par hasard leur rendre visite une fois la semaine. Si elles passent en contrebande, un peu de genièvre dans leur cabas. Quelle nature humaine possède un fond assez inépuisable de tendresse pour trouver en elle le courage d'entourer de soins aussi assidus l'objet même de ses affections. Cependant, lorsqu'on donne 10 livres sterling par trimestre à une garde malade, on croit avoir été fort généreux à son endroit. M. Crolles ne donnait que la moitié à Miss Esther pour être si empressé auprès du vieux baronnet, et encore n'était-ce pas sans se faire tirer l'oreille et sans crier beaucoup. Dès qu'il faisait un rayon de soleil, on sortait le vieillard dans le même fauteuil qui avait servi à Miss Crolles lors de son séjour à Brighton et qui en avait été rapporté à Crolles-la-Reine avec une quantité d'effets appartenant à Lady Southdown. Lady Jane marchait toujours aux côtés du vieillard dont elle paraissait obtenir toutes les préférences. Sa tête s'agitait, sa figure s'éclairait d'un sourire lorsqu'il la voyait entrer dans sa chambre. Si, au contraire, elle avait l'air de s'éloigner, il en exprimait son mécontentement par des sons inarticulés et confus. À peine Lady Jane était-elle hors de la chambre, qu'aussitôt il éclatait en larmes et en sanglots. C'est qu'il y avait alors changement complet et à vue. La figure d'Esther, jusqu'alors souriante, devenait sombre et farouche, et à la place de ses manières douces et empressées, elle montrait le poing au vieillard et lui criait « Silence, vieil imbécile !» Puis, en dépit de ses gémissements, elle écartait son fauteuil de la cheminée, dont la vue faisait sa principale distraction. Tel était le couronnement de 70 années de mensonges, d'ivrognerie, d'égoïsme et de débauche. Il ne restait plus de tout cela qu'un vieillard idiot et pleurard qu'il fallait mettre au lit, faire manger et soigner comme un enfant. La nature se chargea d'apporter un terme aux fonctions de la garde malade. Un jour, de grand matin, tandis que M. Pitt examinait dans son cabinet différentes pièces que lui avaient remises l'intendant et le bailli, on frappa à la porte, et presque aussitôt apparut sur le seuil Esther, qui, après un salut assez gauche, lui annonça la nouvelle suivante. « Pardon, monsieur. Monsieur est mort. Ce matin, monsieur, je faisais chauffer sa tisane, monsieur, de l'eau de cruau, monsieur, qu'il prend tous les matins, monsieur, à 6 heures, monsieur. Et j'ai entendu comme une espèce de soupir, monsieur, et alors... » Elle fit à Pitt une nouvelle révérence. La figure de celui-ci, toujours si pâle d'ordinaire, se couvrit d'un certain incarnat. Était-ce parce qu'il se voyait enfin maître et seigneur de Crowley la reine, titulaire d'une place au Parlement, parce qu'il apercevait tout un avenir de grandeurs et dignités ? Rien désormais ne m'empêche maintenant, pensa-t-il en lui-même, d'acquitter les dettes qui surchargent mes biens. Il eut bien vite fait le calcul des obstacles à vaincre, des améliorations à apporter. Si jusqu'alors il avait laissé sans emploi l'argent qui lui venait de sa tante, c'était dans la crainte que Sir Pitt, se rétablissant, ce ne fût autant de perdu pour lui. Les persiennes furent fermées au château et au presbytère. Les cloches sonnèrent le glas funèbre. L'église fut tendue de noir. Bute Crowley, par convenance, ne parut pas à un meeting qui eut lieu dans le comté à l'occasion des courses de chevaux, mais il alla tranquillement dîner chez les Faddleston, où, tout en dégustant le porto, on causa du défunt et de son héritier. Miss Betsy, mariée récemment à un cellier de Madbury, poussa de grands hélas. M. Glaubert, le chirurgien, vint faire visite à la famille du mort, lui présenter ses respectueux compliments et s'informer de la santé des dames. Ses décès devint l'objet de toutes les conversations à Madbury et à l'auberge des armes de Crowley. Le maître du lieu s'était réconcilié avec le ministre, qui, de temps à autre, visitait la salle des buveurs et fêtait l'aile de M. Horrocks. « Voulez-vous que j'écrive à votre frère, ou bien vous chargez-vous de ce soin ?» demanda Lady Jane au nouveau baronnet. « C'est à moi de lui écrire en ma qualité de chef de la famille, » lui répondit Sir Pitt. « Je vais l'inviter pour l'enterrement, ainsi que le veulent les convenances. » Et quant à Mrs. Rawdon, hasarda avec timidité Lady Jane. « Jane, Jane, » fit Lady Southdown, « pensez-vous bien à ce que vous dites ?»« Bien entendu, Mrs. Rawdon est de moitié dans l'invitation, » reprit Sir Pitt avec fermeté. « Une pareille chose ne se passera pas, moi présente dans cette maison, » reprit Lady Southdown. « Votre seigneurie, » répliqua Sir Pitt, « aura l'obligeance de se rappeler que je suis désormais le chef de la famille. Écrivez, je vous prie, Lady Jane, une lettre à Mrs. Rawdon Crowley pour la prier d'assister à cette douloureuse cérémonie. « Jane, » s'écria la comtesse, « je vous défends de prendre la plume et d'écrire. » « Je prétends être maître ici, » reprit à son tour Sir Pitt, « et malgré le regret mortel que j'aurais à voir votre seigneurie quitter ce logis, je suis décidé, ne vous en déplaise, à y régner à ma guise et d'après mes inspirations personnelles. » Lady Southdown, se laissant emporter à un sublime mouvement d'indignation, demanda sa voiture et ses chevaux. Condamnée à l'exil par son gendre et par sa fille, elle allait cacher ses chagrins dans quelque lieu solitaire et ignoré, et prier le ciel de les faire revenir à récipiscence. « Nous ne voulons nullement votre exil, chère maman, » dit la timide Jane d'une voix suppliante. « C'est bien m'exiler que d'ouvrir cette maison à une société que ne peut souffrir une femme qui possède quelques sentiments orthodoxes. Demain matin, je pars dans ma voiture. Vous allez me faire le plaisir d'écrire sous ma dictée, Jane, » lui dit Sir Pitt se levant. Et il prit cette attitude d'autorité familière au portrait d'exposition. Écrivez. Crowley la reine, 14 septembre 1822. Mon cher frère. En entendant ces paroles retentir à ses oreilles comme un arrêt décisif et terrible, Lady Southdown, qui avait compté sur quelque faiblesse ou quelque hésitation de la part de son gendre, se leva sur le champ et quitta le cabinet dans le paroxysme de l'agitation. Lady Jane regarda son mari comme pour lui demander la permission de suivre sa mère afin de la consoler, mais Pitt la retint du regard. « Rassurez-vous, elle restera. Sa maison est louée à Brighton. Plus de la moitié de son revenu est dépensé d'avance, et une comtesse qui vit à l'auberge est une femme déconsidérée. Il y avait longtemps, ma chère amie, que j'attendais l'occasion de frapper ce coup nécessaire. Et maintenant, si vous voulez bien, nous allons reprendre notre dictée. Mon cher frère, vous deviez pressentir depuis longtemps la douloureuse nouvelle que j'ai l'affliction de vous transmettre, etc., etc. En un mot, Pitt, placé par un coup du sort, ou plutôt grâce à son mérite, comme il en était lui-même convaincu, à la tête de la fortune qui avait excité la convoitise de tous ses proches, Pitt était résolu de traiter sa famille avec les plus grands égards et d'être bon prince avec elle. Il songeait à rétablir dans son antique splendeur la maison des Crawley, et l'idée d'être le chef de cette race illustre flattait singulièrement son amour-propre. Le premier emploi qu'il voulait faire de l'immense crédit que ses qualités transcendantes et sa nouvelle position allaient lui assurer dans le comté devait être de procurer à son frère et au cousin Bute un établissement digne d'eux. Peut-être était-il tourmenté par un secret remords à la pensée qu'il réunissait sous sa main tous ses biens qui, pour tant de gens, avaient été l'objet de si belles espérances. Son règne datait à peine de 3 ou 4 jours que déjà il n'était plus reconnaissable. Son plan de conduite était arrêté. Il était déterminé à se montrer juste et serviable, à secouer le joug de Lady Southdown, enfin à se maintenir dans les meilleurs termes avec tous les membres de sa famille. Telle était la disposition d'esprit dans laquelle il avait écrit sa lettre à son frère Rodon, lettre pleine de dignité et de mesure, où les plus grands mots et les phrases les plus magnifiques enchâssaient les plus splendides pensées. Il y avait assurément là de quoi remplir d'admiration la petite secrétaire dont la plume courait sous la dictée de Sir Pitt. Il sera, quelque jour, un des plus grands orateurs de la Chambre des communes, pensait en elle-même la jeune femme. Que de sagesse, que de bonté! C'est bien en vérité un homme de génie. C'est, il est vrai, une nature un peu froide, mais elle est si excellente. En vérité, il a le génie en partage. Pitt Crawley avait d'abord composé sa lettre tout à loisir et pesé chaque expression. Puis il l'avait ensuite apprise par cœur, avec cette dissimulation dont les diplomates seuls sont capables, et enfin, au moment voulu, il l'avait débitée à sa femme, toute stupéfaite d'admiration. Cette lettre, entourée d'un large filet noir et cachetée de cire de même couleur, fut expédiée par Sir Pitt à son frère le colonel. Rodon n'éprouva qu'une demi-satisfaction à l'arrivée de cette missive. « À quoi bon aller nous enfouir dans cette assommante demeure ?» se disait-il en lui-même. « Je ne puis souffrir de me trouver en tête-à-tête avec Pitt après dîner. Et puis, rien que pour aller et venir, il va nous en coûter 20 livres. » En allant porter dans la chambre de Becky le chocolat que chaque jour il lui préparait de ses propres mains, Rodon remit à sa femme la lettre en question pour agir d'après son avis comme il avait coutume de faire dans toutes les circonstances difficiles. Il déposa le déjeuner et la fatale missive sur la toilette devant laquelle Becky était occupée à passer le peigne dans sa blonde chevelure. Cette petite femme, après avoir parcouru la lettre objet des terreurs de Rodon, se redressa de toute sa hauteur en agitant cette lettre au-dessus de sa tête et criant « Victoire ! Victoire !» « Et pourquoi victoire ?» répéta Rodon tout surpris, de voir cette petite créature bondissant dans sa robe flottante et ses boucles éparses sur le cou. « Le vieux ne nous laisse rien, Becky. Il m'a déjà compté ma légitime à ma majorité. »« N'aurez-vous donc jamais assez de bon sens pour être majeur ?» lui répliqua Becky. « Allons vite chez Mrs. Brunoy. Il me faut des vêtements de deuil. Et vous, vous ferez mettre un crêpe à votre chapeau et vous vous commanderez un habit noir, car je ne vous en connais pas. » « Allez donc demander tout cela pour demain, et nous partirons jeudi. »« Mais vous ne songez pas à aller là-bas, j'imagine, » fit Rodon, tout étonné. « C'est bien, au contraire, mon intention, » lui répondit sa femme. « Je compte sur Lady Jane pour être, l'année prochaine, présentée à la cour. Et, par votre frère, vous aurez une place au Parlement. Ne verrez-vous donc jamais plus loin que votre nez, mon gros bêta ?»« Lord Steyne aura votre voix et celle de votre frère. Vous deviendrez secrétaire du vice-roi d'Irlande, gouverneur aux Indes, trésorier, consul, que sais-je. » En attendant toutes ces belles choses, la poste va nous coûter encore pas mal d'argent, grommela Rodon de mauvaise humeur. Nous prendrons passage dans la voiture de Southdown, que sa qualité de membre de la famille oblige à être présent aux funérailles. Mais mieux encore que tout cela, n'avons-nous pas la diligence? Ce n'en sera que plus modeste et partant plus convenable. Et le petit viendra-t-il aussi avec nous? Demanda le colonel. À quoi bon? Pour payer une place de supplément. Il est maintenant trop grand pour voyager sur nos genoux. Nous le laisserons ici. Briggs, pendant ce temps, lui fera une blouse noire. Allez vite et faites voir comme vous savez obéir. Dites en passant à Sparks que le vieux Sir Pitt est mort et qu'il vous reviendra grosse part dans l'héritage quand les affaires seront arrangées. Il ira bien sûr le répéter à Raggles qui nous tourmente si fort pour son argent et il n'en faudra pas davantage pour lui faire prendre patience. Ses ordres donnés et ses dispositions réglées, Becky se mit tout tranquillement à prendre son chocolat. Le soir, lorsque Lord Steyne vint faire à Becky sa visite ordinaire, il la trouva avec sa compagne, qui n'était autre que notre ami Briggs, occupée à tailler, couper, découdre et déchirer toutes les étoffes noires dont elle pouvait faire quelque chose pour le besoin du moment. « Nous sommes, Briggs et moi, en proie à la plus vive douleur, » dit Rebecca à son visiteur. Sir Pitt Crawley, le chef de la famille, est décédé. Nous avons passé toute la matinée à nous déchirer la poitrine, et maintenant, de désespoir, nous déchirons nos vieilles guenilles. Oh, Rebecca, est-ce bien vous que j'entends? Briggs n'en put dire plus long, et ses yeux pleins de larmes s'élevèrent vers le ciel. Oh, Rebecca, est-ce bien vous? Reprit Milord d'un ton tragicomique. Ainsi donc, le vieux cuistre n'est plus de ce monde. S'il avait mieux su ménager ses atouts, il aurait pu entrer à la chambre des lords. C'eût été, je gage, du goût de M. Pitt, mais l'étoffe n'y était pas. On n'avait jamais vu pareil bélitre. Un peu plus, je serais maintenant la veuve du vieux Silène, répondit alors Rebecca. Vous rappelez-vous cela, Miss Briggs? Ce certain jour où vous me regardiez par le trou de la serrure et où vous l'avez vu à mes genoux, Miss Briggs se mit à rougir sur le coup de cette apostrophe et s'empressa d'accéder au plus vite à l'invitation de Lord Steyne qui la priait d'aller préparer le thé. Briggs était ce chien de berger qui devait mettre à l'abri de tout soupçon injurieux la vertu et la réputation de Rebecca. Miss Crawley, en mourant, lui avait assuré une petite rente viagère et son plus vif désir eût été de rester auprès de Lady Jane, si avenante pour elle comme pour tout le monde. Mais Lady Southdown s'était empressée de congédier la pauvre Briggs à la première occasion qui s'était offerte à elle, sans blesser les convenances. Elle alla alors dans sa famille essayer la vie de campagne, mais elle ne put y tenir longtemps. Elle y sentait le manque de cette société d'élite dont désormais il lui était impossible de se passer. Ses parents étaient de petits commerçants de province qui se montrèrent plus âpres après elle à cause de ses 400 livres que les parents de Miss Crawley ne l'avaient été auprès de la vieille demoiselle pour tout l'héritage qu'ils devaient en avoir. Si bien que pour leur échapper, elle n'eut d'autre parti à prendre que de s'enfuir à Londres au plus vite, résolue à chercher de nouveau les chaînes de l'esclavage, 1000 fois moins lourdes à ses yeux que la liberté. Après avoir fait annoncer par les journaux qu'une demoiselle de compagnie, offrant toutes les garanties possibles, désirait, etc., elle alla chez M. Bowles attendre l'effet de ses insertions. Or, par un beau jour où la pauvre Briggs rentrait à son hôtel, harassée de ses courses à l'office de publicité afin de se faire mettre dans le Times, le coquet équipage de Mrs. Rodon, attelé de 2 petits poneys, passa dans la rue. Rebecca le conduisait de ses mains délicates. Elle avait déjà apprécié, comme nous avons pu nous en convaincre, les excellentes qualités de la demoiselle de compagnie, son caractère toujours égal, son humeur flexible et accommodante. Dès qu'elle eut aperçu Briggs, elle dirigea ses chevaux du côté du perron de l'hôtel, passa les rênes au groom, et sautant de la voiture, elle serrait déjà les 2 mains de la demoiselle de compagnie, que cette dernière n'était pas encore revenue du premier mouvement de surprise et d'émotion. Briggs se mit à pleurer, Becky à rire, et embrassa son ancienne amie dès qu'elles furent entrées dans le corridor. Ses tendresses se prolongèrent jusque dans le salon de Bowles. Les rideaux étaient de damas rouge, et au-dessus de la croisée se dessinait un aigle aux ailes déployées, portant dans ses serres une banderole sur laquelle on lisait en grosses lettres « Appartements à louer ». Briggs entremêla son récit de ses sanglots et de ses transports si communs aux natures molles et débiles, toutes les fois qu'il s'agit d'une reconnaissance. Miss Briggs raconta toute son histoire, et Becky l'interrogea sur tous les détails de sa vie, avec cette candeur et cette naïveté que nous lui connaissons. Instruite de la situation de son ami et de petits legs qu'elle devait à la générosité de Miss Crawley, et bien convaincue que Briggs n'était point guidé par des vues intéressées, Becky forma aussitôt sur elle des projets qui n'avaient rien que de très flatteurs. N'était-ce pas la compagne dont elle avait besoin? Sans plus de cérémonie, elle l'invita le soir même à dîner pour lui faire voir son petit Rodon. Mrs. Bowles se hasarda à faire remarquer à la trop sensible Briggs qu'elle allait se fourrer dans la gueule du lion. « Il viendra un jour où vous vous en mordrez les doigts, Miss Briggs. Souvenez-vous bien de ce que je vous dis, aussi vrai que je m'appelle Bowles. » Briggs promit d'être sur ses gardes. La semaine suivante, elle allait s'installer chez Mrs. Rodon, et 6 mois n'étaient pas encore écoulés qu'elle avait déjà prêté 200 livres à Rodon sur son petit capital.